Découvrez l'auteur derrière les mots dans Paroles d'écrivain.
Oui, eh bien, bonsoir. Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui William Maurer pour son livre Le Monde de Gigi, publié aux éditions Le Lys Bleu. Bonsoir, William Maurer.
Bonsoir, Jean-Pierre.
Alors, première question. D'abord, c'est votre premier livre ou vous avez déjà écrit d'autres livres avant d'écrire ce livre ?
Alors, c'est mon second livre.
Et le premier livre était dans la même veine ou...
Pas du tout, en vérité. Mon premier livre s'appelle Les Telluriques. Déjà, il est beaucoup plus volumineux et c'est un recueil de poèmes et d'essais très multiformes, très variés, avec de la poésie, de la prose poétique, des vers rimés, des vers libres, donc beaucoup plus éclectiques.
D'accord. Et alors, ce livre, quelle est la genèse de ce livre ? Puisque là, alors, c'est un livre différent du premier. D'où vous est venue une idée, parce que c'est un livre très original et très passionnant et qui m'a beaucoup plu, mais où il y a beaucoup d'imagination et c'est exact. Alors j'aimerais savoir comment c'est venu, vous est venue cette idée, parce que l'histoire d'un pigeon et d'un chat. Et après, c'est plus loin que ça, bien sûr.
Oui, bien sûr. Alors la genèse de ce livre est assez... assez rocambolesque. Pour tout vous dire, moi, au départ, lorsque je me suis remis à écrire en 2019, j'avais toujours l'obsession d'un seul livre. Voilà, l'homme d'un seul livre, à l'instar de, par exemple, Les Caractères de la Bruyère ou des Essais de Montaigne. Et j'avais ce rêve d'écrire un seul livre où j'aurais pu tout mettre et ensuite c'était fini. Et au départ, ce livre s'appelait L'Absent. Et qui serait un livre qui contiendrait à la fois donc plusieurs histoires, des romans, de la poésie, du théâtre, voilà, une œuvre somme. Et puis je me suis rendu compte que ce ne serait pas possible parce que évidemment, vu la somme de choses qu'il y avait, ça faisait vraiment quelque chose de beaucoup trop volumineux et on se perdait un peu, on s'éparpillait trop. Donc, l'histoire de Gigi au départ était contenu dans les telluriques avec tout le reste. Au départ, c'était un seul livre. Et puis, je me suis dit que ça ne fonctionnerait pas. Donc, j'ai décidé d'extraire le monde de Gigi du premier livre qui s'appelait L'Absent. L'Absent est donc devenu les telluriques et le monde de Gigi est devenu une histoire à part entière. Il y avait déjà donc les personnages dans ce premier livre, Gigi, Mao, Meredith, donc les trois personnages principaux. Et ensuite, c'est lorsque j'ai décidé d'extraire cette histoire et vraiment d'en faire un livre que l'histoire du procès m'est venue. C'est-à-dire que le procès, paradoxalement, c'est la dernière idée que j'ai eue en fait, dans le livre. La première chose qui m'est venue, c'est le style d'une part. Enfin, les styles. Je crois que c'est né avec ma lecture d'un livre de Raymond Queneau.
Oui, vous en parlez d'ailleurs.
Alors, il y a Zazie dans le métro. Mais bizarrement, ce n'est pas ce livre-là qui m'a inspiré au départ pour le style. C'est Les Fleurs Bleues, le début des Fleurs Bleues de Raymond Queneau. Le style est venu en premier. Ensuite, le personnage de Gigi, donc, qui est quand même inspiré de Zazie. Et c'est ensuite que j'ai eu donc l'idée d'introduire les animaux, puis l'ange, le directeur céleste. Et en fait, au départ, j'avais surtout le style, les personnages et l'intrigue. C'est vraiment la chose qui est arrivée en dernière position.
Alors, les principaux héros de ce livre sont surtout d'abord Meredith et Mao. Alors, qui sont Meredith et Mao ?
Alors,
et pourquoi Meredith et Mao aussi ?
Alors Mao, parce que c'est un chat qui a véritablement existé, qui est parti, qui a été emporté par la maladie malheureusement. Et à ce moment-là, j'écrivais Le Monde de Gigi et donc c'est en hommage à lui que j'ai décidé de garder ce prénom Mao. Alors Meredith, alors non, je n'ai pas de pigeon pour le coup, mais Meredith, ce prénom m'est venu d'un film que je regardais quand j'étais enfant, un film américain qui, je pense, qui est assez connu. Le titre français, c'est À nous quatre. Je me souviens qu'il y avait Lindsay Lohan, qui était encore toute petite à l'intérieur. Et il y avait une jeune femme blonde. Paradoxalement, c'était la méchante. Elle s'appelait Meredith. Et comme donc la pigeonnicée est anglaise, le prénom Meredith m'est venu assez naturellement. Voilà pour les prénoms. Et pour Gigi, en fait, ça ne vient pas de Colette, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que Colette a écrit, ça s'appelle Gigi. En fait, ça vient d'un manga que peut-être vous avez connu, qui était assez connu dans les années 80. C'était une jeune petite fille rose, aux cheveux roses, qui se transformait. Voilà, et qui... Donc, c'était dans l'époque des Magical Girls. Mm-hmm. Voilà, donc ce prénom vient de là.
Alors, il s'agit également de... mettez l'accent sur les deux principaux, disons, thèmes du livre, le prédateur et la proie.
Oui.
Et puis vous insistez sur ces deux, parce qu'il s'agit surtout, parce que c'est une amitié qui naît au départ entre ces deux, entre pigeon et chat, alors que ce serait le contraire qui devrait se produire.
Oui, c'est-à-dire que dans la nature, de ce que je sais en tout cas, voilà. C'est que oui, les pigeons font partie des proies des chats.
Voilà, hein, voilà,
et j'en ai souvent fait l'expérience, là où j'habite. En général, lorsque mon chat voyait un pigeon, il n'avait pas forcément envie de lier une franche amitié. Bon, en tout cas, c'est pas ce qui l'intéressait de prime abord. Et je me suis donc demandé... qu'est-ce qui se passerait s'il y avait ce bug ? On peut dire que c'est un bug. Ouais. Voilà, donc ils se rencontrent à Paris et ils s'apprêtent vraiment de bonne foi à faire ce qu'ils pensent devoir faire et ce qu'ils sont habitués à faire. Et puis tout à coup, il y a quelque chose qui se passe. Ils ne savent pas pourquoi ils n'en ont pas envie. Ils essayent une fois, ils essayent une seconde fois. Il y a quelque chose qui coince quand même. On ne comprend pas. Eux-mêmes ne comprennent pas. Ils se disent « Ah, bon, on essaye. » Ça ne marche toujours pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on discute. On discute de quoi ? Eh bien, on se demande pourquoi ça ne fonctionne pas. Et ensuite, de fil en aiguille, ils se disent, mais si ça ne marche pas, peut-être qu'il faudrait arrêter de se forcer à faire ça. Et tout à coup, ils se disent, bon, on va faire une enquête. On va mener l'enquête pour savoir ce qui se passe. Parce que c'est anormal. Et c'est à ce moment-là donc il voit Gigi avec sa glace, parce qu'elle aime beaucoup les glaces, et tout à coup ils vont la voir en espérant que cette petite fille va pouvoir les aider. Alors vous savez, c'est comme dans notre monde, hein, lorsque quelque chose ne va pas très vite, il y a des murmures, il y a des rumeurs, on se demande ce qui se passe, il y a des animaux qui ont la langue un peu pendue, et ça finit par se savoir. Donc ils sont interceptés par Pichon, hein, l'empereur des pigeons, et Ramina Grobis, le doyen des chats.
Ouais.
Et ils se disent, ça va pas, vous faites n'importe quoi, hein, ce n'est pas possible. Là, vous méritez au moins la peine de mort. Alors, de justesse, Gigi arrive à les sauver, entre guillemets, pour dire non, hein, ils ne peuvent être condamnés qu'après un procès équitable, etc. On va choisir les jurys. Elle se prend vraiment au sérieux à ce moment-là. Et à ce moment-là, il va y avoir le procès dont elle sera l'avocate.
On parlera. Et alors, ensuite, vous faites intervenir aussi Hermès.
Oui.
Hermès, hein, dans un premier temps aussi, au tout début du livre.
Oui. Alors, effectivement, c'est l'idée donc d'avoir un... toute une histoire avec le ciel aussi, c'est parce que effectivement la nature. Mmh. Donc s'il y a un problème dans la nature, forcément ça renvoie d'une certaine façon à celui qui pourrait être l'auteur des lois de la nature. Donc là, pour certains c'est l'univers, le grand horloger, pour d'autres c'est Dieu. Bon voilà. Mais la question donc d'une loi de la nature qui a été transgressée, forcément qui dit loi dit une intentionnalité derrière qui aurait promulgué et établi cette loi. Donc le ciel voit ça. Effectivement, ils ne peuvent pas demander à Dieu parce que il a fait une fugue. Dieu a fait une fugue. Il est en burn-out, hein, ce qui peut se comprendre en vrai. Donc, il a fait une fugue.
Oui, c'était ça.
Et au départ, Hermès est chargé de le retrouver. Bon, il n'y arrive pas. Donc, il essaie. Mais entre-temps, il y a eu le bug entre Mao et Meredith. Donc, le directeur des affaires célestes, lui, on sent qu'il est au bout de sa vie aussi, il rappelle donc l'ange Hermès et il lui dit « Bon, est-ce que tu vois ce pigeon et ce chat ? Il y a un souci, tu vas aller là-bas, tu vas être du côté de l'accusation et, pour témoigner, parce que bon, certes, il n'est pas là pour l'instant, justement, on ne sait pas ce qu'il ferait, on ne peut pas lui demander son avis, donc en attendant, eh bien, on ne fait rien, on attend, mais en tout cas, on fait en sorte que les choses ne changent pas. » Et donc Hermès sera amené à rencontrer Gigi, à témoigner, etc.
Ouais, donc il rencontre Gigi, voilà. Et alors, il y a ici un père... il y a la rencontre ensuite Zazie dans le métro.
Oui.
Puisque vous faites intervenir Zazie également.
Oui. Elle rencontre... Elle est à Paris.
Elle est à Paris.
Donc le livre de Queneau, Zazie dans le métro, c'est de Rossi à Paris. Et elle rencontre Zazie, donc, qui est un peu, on va dire, le personnage antinomique. Voilà, Gigi, c'est une jeune fille assez orgueilleuse, elle a, mais qui est assez fière. Elle a une certaine élégance, voilà, vestimentaire, voilà, une puissance financière, intellectuelle. C'est un peu une petite aristocrate, en vrai. Et elle rencontre Zazie, qui est un peu tout l'opposé, voilà, qui est vulgaire, qui n'hésite pas à dire de gros mots, qui dit un peu tout ce qu'elle pense. Donc, c'est un peu le choc des titans, là, en tout cas en littérature. Et pourquoi Zazie ? Parce que c'est Zazie qui va lui dire que, finalement, ses soupçons sur le monde sont fondés, parce que Gigi pense, en fait, qu'il y a quelque chose qui cloche dans le monde. Le ciel est un peu trop bleu, les arbres sont trop verts, les gens manquent un peu de profondeur. Et elle se demande, mais est-ce qu'elle est vraiment dans le monde réel ? Et c'est Zazie qui va lui dire, effectivement, tu n'es pas dans le monde réel, tu es dans un roman. Moi, j'ai 10 ans, tel que tu me vois, mais en fait, j'ai 70 ans de vie papier, hein, puisque Zazie dans le métro a été publié en 59. Et à ce moment-là, elle lui dit, non, vraiment, on n'est pas dans le monde réel. Et moi, j'en ai assez parce que je suis censé aller dans un métro, en fait, mais je ne peux jamais y être parce que c'est mon histoire, en fait. Je ne peux jamais avoir ce métro. Ensuite, Zazie, donc comme dans le livre de Queneau, Zazie ne peut pas rester vraiment très longtemps avec un ou plusieurs personnages. Elle est en mouvement, elle a envie de faire autre chose. À ce moment-là, elle va voler la barbe à papa voilà, d'un pauvre petit bonhomme. Et voilà. Mais elle a quand même une importance fondamentale puisque c'est elle qui finalement révèle la vérité à Gigi, c'est-à-dire qu'elle n'est qu'un personnage de roman qu'elle finira par découvrir à la fin. Voilà.
Bien, de toute façon, déjà, notre première pause, enfin, notre seule pause musicale.
Oui.
Et qu'est-ce que vous avez choisi comme...
Alors, j'ai choisi une de mes compositions qui a été donnée donc, le 27 avril dans l'église des Chartreux à Toulouse. Mm-hmm. C'est un trio pour clavecin, Onde Marteneau et mezzo-soprano.
Très bien, mais nous l'écoutons. Avant de lire. Alors, nous venons d'écouter donc comme.
Donc, le trio numéro 1 pour clavecin, Onde Marteneau et mezzo-soprano.
D'accord, merci. Bien, je crois que vous allez nous lire à présent un extrait,
oui.
Un court extrait de ce livre, Le Monde de Gigi.
Alors, j'ai décidé de lire le premier chapitre, donc déjà pour ne pas divulgacher.
Oui, voilà. la suite. Oui, d'ailleurs, vous transformez les mots, Jean-Marc, aussi, c'est vrai.
Alors oui, j'aime beaucoup transformer les mots, c'est vrai. Hein, c'est-à-dire que je ne m'embête pas, s'il y a des mots qui n'existent pas, si j'en ai besoin, je les invente, c'est assez commode. Chapitre 1er, Mao et Meredith. Comment la nature permit une entente extraordinaire entre deux êtres voués à se haïr et ce qui s'ensuivit. Paris, été 2022, dimanche à midi, entre le Trocadéro et la place Clichy. Rue Bondée, nappe de soleil et gazon jaune. Les humains marchent, discutent, sourient, rient, pleurent, pleurient, marchent, boivent, mangent, boivangent. Ambiance Amélie Poulain. Il est 13h57, 03 secondes. La température, 25 degrés Celsius. La pression atmosphérique, 1011 hectopascales. À 20 km, au nord-ouest de la Tour Eiffel, sur le toit d'un immeuble. Un pigeon. Silence total. En face de lui, un chat. Gros, gris, yeux verts, moustaches frétillantes comme des antennes de fourmis. Le chat fixe le pigeon. Le pigeon fixe le chat. Le chat et le pigeon se fixent, se toisent, silencieux, immobiles et concentrés, tendus dans un effort intense pour transcender leur incompréhension mutuelle. Rencontre étrange, hors du commun. Le chat n'avait pas envie de zigouiller le pigeon. Le pigeon n'avait pas envie de fuir le chat. Quelque chose se produisait. Quelque chose s'était produit, avait changé. Oh, pas partout. Seulement dans la chaîne des liens interespèces régissant le sacro-saint rapport félin-volatile à travers deux échantillons présents ici, maintenant, qui se regardent, se fixent, se toisent. Voilà.
Très bien, merci. Oui, alors il y a un personnage aussi dont vous parlez qui joue un rôle assez important, surtout pour Gigi, c'est le fameux tonton, tonton Icar.
Oui.
Hein, quel rôle joue-t-il dans le...
Eh bien, en fait, c'est le tonton Icare. Alors déjà, il se trouve dans le premier livre, voilà. L'été lurique, hein, où il est aussi l'oncle de Gigi. Donc les deux personnages se trouvent dans le premier roman, enfin dans le premier livre. Et l'oncle Icare, c'est le seul véritable adulte du livre. Alors, l'oncle Icare, alors il est professeur de xylophonie, hein, puisque Gigi, elle a 10 ans. Elle est assez précoce, donc elle a envie de connaître les secrets des adultes. Et son oncle Icare lui a dit qu'il enseignait la philosophie, donc elle, elle le déforme, hein, xylophonie. Et la définition qu'il donne en fait, de la philosophie, c'est la science qui permet de répondre aux questions les plus compliquées. D'une certaine façon, c'est vrai. C'est un peu réducteur, mais c'est vrai. Et donc, lorsque Mao et Meredith vont voir Gigi, bon, pour elle, c'est une question très compliquée. C'est un problème. Et elle se dit, vu la définition que m'a donnée mon oncle, la science, entre guillemets, qui peut résoudre ça, c'est la xylophonie. Et donc, justement, son oncle est là, il est de passage à Paris. Et à ce moment-là, elle va voir son oncle et lui présenter donc Mao et Meredith. Rencontre un peu étrange, ils viennent de sortir de Disneyland Paris, etc. Et à ce moment-là, l'oncle Icare, va dire quelque chose de très intéressant qui va un peu arrêter l'enquête. C'est-à-dire, au départ, Mao et Meredith et Gigi voulaient comprendre pourquoi ça ne marchait plus. Et l'oncle Icare va prendre la question un peu différemment. Il va leur dire, mais est-ce que vous êtes... Ça a changé, bon, certes, d'accord, mais est-ce que ce changement vous rend malheureux ? Pas vraiment. Ce changement vous rend plus heureux. Mais vous vous rendez malheureux en voulant chercher la cause d'un changement qui vous rend heureux. C'est un peu bizarre. Donc, effectivement, ça donne un peu le vertige. Hein. Mais tout ça pour leur faire comprendre que, écoutez, tant mieux. Ça a changé, mais finalement, vous vous sentez bien comme ça. Donc, pourquoi vouloir aller plus loin ? Donc, ils ne donnent pas vraiment la réponse, mais ils leur donnent un angle différent, une approche différente, ce qui va faire qu'ils vont se dire, eh bien, finalement, peut-être qu'il a raison. Finalement, ça ne nous déplaît pas. Donc, pourquoi se torturer ? Il y a tellement en fait de causes pour de raisons d'être malheureux. Pourquoi se rendre malheureux en cherchant ce qui nous rend heureux ? Voilà. Donc là, on est plutôt du côté de l'ordre de la philosophie morale, de la philosophie antique, hein, l'art d'être heureux. Et ça aurait pu s'arrêter là s'il n'avait pas été découvert et accusé et traîné au tribunal.
Alors voilà. Parlons de ce fameux procès, puisqu'il y a un procès qui. Alors pourquoi ce procès ? Quelles sont les origines de ce procès ?
Alors, pour être honnête, je ne m'en souviens plus. Alors, il y a beaucoup de choses, j'arrive à repérer l'origine, l'inspiration. Ouais. Je crois que l'origine de ce procès vient de ma lecture d'une pièce de théâtre où justement il y a un procès, c'est Zo ou l'assassin philanthrope. Où il y a justement un singe, je crois. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Mais je crois que c'est vraiment ce livre qui m'a donné l'idée du procès. Et en fait, ce qui m'a intéressé surtout à travers ce procès-là, c'est on va dire, le débat entre ce qu'on appelle le droit positif, c'est-à-dire les lois instituées par les hommes, et le droit naturel. C'est-à-dire le droit, les lois que l'on pense pouvoir extraire du fonctionnement de la nature. Alors là, les choses sont encore plus compliquées parce qu'on est dans le monde animal. Il n'y a rien d'écrit, justement. Hein, il n'y a rien de... On ne peut pas dire qu'ils ont commis une faute ou qu'ils n'ont pas commis de faute. Il n'y a pas de peine prévue. C'est encore une difficulté supplémentaire. Donc, et c'est l'argument en fait de Rami qui dit que justement, parce que dans la nature, c'est vous qui avez besoin, les humains, de lois écrites, parce que c'est très compliqué, parce que vous ne suivez pas la nature. Évidemment, il a une position de supériorité. Et il dit, nous, justement, nous sommes des animaux, nous n'avons pas besoin de tout ce chichi, en fait. Hein. Nous suivons la nature, ça nous convient très bien. Et quand certaines personnes comme Mao et Meredith ne suivent pas la nature, on les tue. C'est assez pratique, parce qu'il faut suivre la nature. Et lui, Rami, dans sa position, il dit des choses qui finalement ne sont pas si insensées que cela. Lorsqu'il dit par exemple que l'acquittement de Mao et Meredith pourra avoir des conséquences dans le monde animal, imaginez, demain vous vous réveillez, il n'y a plus de proies, il n'y a plus de prédateurs, c'est-à-dire aucun animal ne mange de... ne mange d'autres espèces, etc., il y aurait tout de suite des problèmes qui viendraient. Donc, au final, ce n'est pas si tranché que ça. Et il a vraiment des arguments valables de son côté.
On leur reproche quand même à Meredith et à Mao de transgresser certaines choses. Transgression, ils sont considérés comme des animaux, puisque c'est un procès, il y a un limite comme problème.
Oui, ils sont considérés comme des transgresseurs parce qu'ils ont transgressé une loi qui, on va dire, qui n'a jamais été écrite, mais implicitement, cette loi dit dans la nature, il y a des proies et des prédateurs, et les pigeons sont les proies des chats, donc vous n'avez pas à vous entendre, simplement, c'est vraiment inacceptable. Et voilà pourquoi ils sont accusés d'avoir transgressé une loi. Mais... le problème, c'est que, en fait, cette loi, on peut dire qu'elle n'existait pas avant sa transgression, puisque c'est juste que les choses étaient comme ça. Et puisqu'il y a eu transgression, on suppose qu'il y a eu une loi a priori préétablie qui a été transgressée. Mmh. Et c'est un peu le discours de Gigi, quand elle oblige Rami à reformuler sa loi en disant « Mais si vous n'êtes pas sûr de votre loi et des peines encourues dans le cas de son infraction, comment voulez-vous que mes clients... puisse avoir conscience
c'est
en fait,
qui de ce qu'il faisait. C'est Gigi qui défend au procès. Mao et Meredith. Oui. Alors moi, j'ai bien aimé aussi le passage concernant les délibérations.
Alors oui, c'est un chapitre...
toutes les espèces d'animaux qui...
Oui, c'est un chapitre dont on m'a souvent parlé, en fait, parce que déjà, il y a la forme théâtrale qui diffère un peu du reste du livre. Et c'est aussi que... là, c'est un chapitre que j'ai voulu assez humoristique.
Ah oui, très humoristique.
Avec peut-être une petite, je n'irai pas jusqu'à dire satire, mais quand même une petite critique de certaines personnalités un peu, on va dire, un peu extrêmes, qui ne connaissent pas justement la modération. Entre la chèvre qui passe son temps à dormir, le poulpe qui fait l'intello et qui dit non mais tout ça, non je ne peux pas, vous êtes trop bas pour moi, le canard en fait qui n'a pas du tout conscience de sa bêtise, la colombe aristocrate qui traite tout le monde comme de le tiers état, le papillon qui vient de faire sa transformation et qui est pressé d'aller vivre parce qu'elle était une vilaine chenille. Bon voilà, donc il y a plein en fait de personnages comme ça, et moi, mes personnages préférés, c'est à la fois l'écrevisse parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire les répliques de l'écrevisse. Vraiment, l'écrevisse ne sait pas du tout ce qu'il fait là. Hein. C'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire. Et puis, c'est aussi un peu peut-être une critique de notre façon en fait, de juger de certains problèmes importants. Parce que lui, on lui demande, mais coupable ou non coupable. Et lui, il se croit au resto. Il dit, mais, oh, mais ce qui vous arrange, hein, moi, je ne suis pas difficile. Vraiment, comme s'il regardait la carte d'un resto, en fait. Pour juger, en fait, vraiment de la condamnation à mort de deux accusés. Donc, ça, quand même, ça fait ressortir quand même certaines questions fondamentales, dont notre façon de raisonner et de résoudre certaines questions qui sont importantes, avec quand même, malheureusement, parfois une certaine frivolité. L'écrevisse, il ne se rend pas du tout compte de la gravité de son raisonnement, parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est être gentil. Mais parfois, justement, en voulant être gentil, peut-être qu'on ne prend pas les choses suffisamment au sérieux, et à ce moment-là, on peut avoir des... ça peut avoir des conséquences très graves. Et après, le crapaud, justement, a été... pendant ce chapitre, qui a été ignoré, à chaque fois qu'il essaie de parler, on l'ignore. De toute façon, le crapaud, tout le monde l'ignore. Je veux dire, il est laid, bon, en général, on n'aime pas le voir, et tout le monde fait comme s'il n'existait pas. Et au final, à la fin, donc 9 heures après, ils sont tous épuisés, et personne ne veut, on va dire, sortir de sa position. Et à ce moment-là, le papillon qui dit « Ah, mais et si on laissait pour une fois la parole au crapaud ?» Au point où on en est, Et c'est là que le crapaud, qui est en fait un peu l'allégorie de Socrate, hein, qui est connu aussi pour une certaine laideur physique d'ailleurs, va leur donner des outils logiques pour essayer de se retrouver sur un verdict unanime.
D'accord, mais très bien. C'est dommage parce que je vois que le temps passe et j'aurais aimé continuer parce que on pourrait parler de l'influence de la Bible également, parce que vous faites intervenir Ézéchiel également dans le roman, où vous parlez de Spinoza aussi, de Dieu, c'est-à-dire la nature, la forme.
C'est-à-dire que très rapidement, en fait, Hermès, c'est vraiment le test que lui fait subir le directeur des affaires célestes. Parce que, justement, Hermès, il est dans le procès, il est du côté de l'accusation. Et en fait, si vous voulez, c'est quelqu'un qui ne peut pas témoigner contre son entreprise. Il ne peut pas dire « Oh, ben, ils ont très bien fait, c'était pas bien du tout cette loi, qu'est-ce qu'il a fait ?» Il est obligé de dire « Non, non, c'est pas bien, il faut revenir à la raison, Dieu n'a pas voulu ça comme ça, etc. » Mais sauf que là, ce n'est pas vraiment, c'est ce qu'il doit dire. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'il pense. Et Gigi, après avoir rencontré le petit prince, fait son contre-interrogatoire et lui dit « Je ne vous demande pas ce que vous devez dire, je vous demande ce que vous pensez, vous. » Et c'est une façon, en fait, pour le directeur des affaires célestes de tester Hermès. C'est-à-dire, est-ce qu'il va avoir le courage de dire non pas ce qu'il doit dire, mais de dire ce qu'il pense, hein, un peu comme la problématique de Job. Voilà. Et au final, il va avoir le courage de dire ce qu'il pense, même sous la menace. Et c'est ce qui va faire, ce qui va être récompensé et qui va se transformer donc de Hermès qui était laid en l'archange Ézéchiel.
Très bien. Voilà. Alors je crois que vous vouliez avant qu'on termine, faire une petite annonce.
Oui. Alors effectivement, donc avec mon ensemble qui est à la fois une compagnie théâtrale et un ensemble musical, donc qui s'appelle l'ensemble William Moret, nous avons quelques dates bientôt, à la fois en musique et en théâtre. Tout d'abord, je vous propose de nous retrouver. Le 26 janvier, dimanche prochain, pas celui qui arrive mais l'autre, à la collégiale de Castelnaudary pour un concert de clavecin et d'orgue où je jouerai donc quelques pièces du répertoire, hein, quelques pièces baroques, mais aussi quelques-unes de mes compositions. Et le 8 février, vous pouvez venir nous voir donc à Montesquieu-Lauragais, puisqu'il va y avoir la création de notre spectacle, de notre duo clavecin-voix. Avec moi au clavecin et Laetitia Boyau, notre comédienne, pour un duo en fait loufoque, bouffon sur des chansons originales extraites de mon premier livre L'été lyrique. En avril, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, il y aura un concert à Toulouse intitulé donc Les voix humaines en France, hein, entre ciel et terre, avec un programme de chant choral assez éclectique, constitué de mes œuvres, mais aussi du grand répertoire vocal de la Renaissance à nos jours. Voilà.
Très bien. Et ce livre, on peut le trouver dans les librairies ? À quel endroit ? Où est-ce qu'on peut se le procurer ?
Alors, vous pouvez vous procurer ce livre en commande.
Oui.
Voilà, dans certaines librairies à Paris. ou avec moi-même, si vous le désirez. Voilà. Les livres sont aussi disponibles en format Kindle ou en e-book sur Amazon. C'est vrai que moi, je suis un peu de la vieille école de ce point de vue-là. Je n'arrive pas à lire en fait sur les liseuses et ce genre de choses. Mais voilà, je préfère le livre papier. Mais c'est disponible en format numérique, oui.
D'accord. Et vous avez un livre en préparation, un autre livre dans la même veine
J'ai plusieurs livres en préparation, mais celui sur lequel je travaille, c'est Le Monde de Gigi 2.
D'accord.
Parce qu'il va y avoir une suite. Et juste pour vous donner une petite information, le titre c'est La République des animaux.
Ah, oulala.
Voilà.
C'est un programme.
Il va y avoir quelques résonances avec ce qui se passe actuellement.
C'est inspiré, l'inspiration. D'accord, mais écoutez, je vous remercie. Et
merci
à
vous.
Je rappelle le titre, bien sûr, de votre livre, Le Monde de Gigi, publié aux éditions Le Lys Bleu par William Maurer.
Exactement.
Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et j'espère avoir le plaisir de vous recevoir pour le prochain, donc Gigi 2. Quand il sera terminé.
Eh bien, le plaisir serait réciproque.
Très bien.
Mais un grand merci à vous.
Merci. Mais à très bientôt et au mois prochain, donc. Au revoir.
Altitude 93.5.